Avec son bâton de réformatrice, donc Sainte Thérèse quittant le monastère de l'Incarnation pour fonder le Saint-Joseph d'Avila, qu'elle voulait à la manière des déchaussés, c'est-à-dire qu'on se déchaussait à l'époque pour embrasser la pauvreté radicale du Christ. Dans les abbayes, il y avait beaucoup de chaussures raffinées. Donc, quand on voulait se déchausser, toutes les réformes se déchaussent au XVIe siècle en Espagne. On se déchausse, on marche pieds nus pour signifier qu'on embrasse la pauvreté évangélique. Alors, elle va quitter Saint-Joseph, le monastère de l'Incarnation. Elle aura vécu 27 ans au monastère de l'Incarnation, à Avila, au pied des remparts. Nous allons avancer. Voilà la cellule qu'on a retrouvée de Sainte Thérèse. On l'a retrouvée il y a environ 60 ans au monastère de l'Incarnation, une sorte de petite deux pièces, de T2, petit appartement où elle était assez à l'aise et où elle a vécu donc toute sa jeunesse religieuse, tout ce qu'elle transcrit, qu'elle relate dans le livre de la vie. Ça s'est passé dans ce monastère de l'Incarnation où, au total, elle passera 27 ans dans sa vie. C'est quand même assez considérable. Monastère de l'Incarnation d'Avila. Avec une grâce tout à fait particulière, mais qui est bien connue, qu'on appelle la transverbération, cette blessure qui lui a été signifiée par la médiation d'un ange, qui a été l'infusion d'un amour pour... confier, organiser une famille spirituelle, donner un message à l'Église, grâce de la transverbération qui est célébrée dans l'ordre du Carmel, qui est représentée aussi à Rome avec cette fameuse gloire du Bernin, très connue. Bien. Mais grâce qui précède évidemment cette réforme qui commence avec le monastère Saint-Joseph d'Avila. Voilà les remparts d'Avila au mois de novembre, une des portes. Une porte sur la façade sud par où elle est entrée dans le quartier du monastère qu'elle va fonder, Saint-Joseph. Alors, je vous ai mis tout cela parce que dans le livre de la vie, c'est raconté à partir des chapitres 32 jusqu'à 36, tout ce processus de la fondation du monastère de Saint-Joseph d'Avila, qui est donc... le lieu et les sœurs, la communauté qui va recevoir le chemin de la perfection, c'est pour ça que je vous détaille cela maintenant. Il y avait parmi les amis qui appuient la fondation de ce monastère, ces amis, ces spirituels d'Avila à l'époque, un petit cercle, mais un grand cercle, que fréquentait Thérèse d'Avila, une dame un peu de la haute société, Guillomar de Ulloa, qui faisait venir dans sa maison... des grandes pointures spirituelles, si vous voulez, du style Saint-Pierre d'Alcantara, grand réformateur de l'ordre franciscain à l'époque, et du style le futur Saint-François de Borgia, donc jésuite. Donc tout un cercle de spirituels qui se réunissait chez elle, et Sainte Thérèse étant à l'Incarnation sans clôture, eh bien pouvait se promener et allait participer... et a fait donc connaissance de ces gens chez cet ami. Cet ami va l'aider un peu de ses revenus pour fonder le monastère de Saint-Joseph, et surtout va l'aider pour obtenir une autorisation de Rome pour fonder le monastère. Ce quartier est tout à fait, ça c'est la rue de Doña Guillomar de Ulloa, je vais vous montrer sa maison, c'est tout à fait typique d'Avila avec un blason. C'est dans le même quartier que le monastère de Saint-Joseph, juste derrière, tout près de ce qui venait du collège de la Compagnie de Jésus qui venait d'être fondé. Les jésuites viennent d'être fondés, c'est les années 1550, ce collège est tout à fait au tout début de la Compagnie de Jésus en Espagne. Vous vous rappelez les dates, 1537, le vœu de Montmartre, 1540, la reconnaissance par le pape Paul III de la Compagnie de Jésus. Et puis une diffusion très rapide, il y a plusieurs milliers de jésuites dans les premières années, c'est très très rapide. Donc ils le font en particulier par des collèges, et à Avila, il y a le collège Saint-Gil, dont il ne reste plus que ses ruines malheureusement, dans le même quartier, juste à côté de la maison de Doña Guillomar de Ulloa. Alors vous allez voir, c'est bien jésuite, Voilà. D'après Jésus. On ne se trompe pas. Voilà. Donc, il y avait parmi les confesseurs de Sainte-Thérèse deux jeunes jésuites qui avaient deux fois moins d'années qu'elle, quasiment, qui avaient 24 ans. Hein, bon, ça, elle raconte ça dans le livre de la vie. Dans ce quartier-là aussi, il y avait un monastère de Clarisse qu'on appelle les Gordillas, les petites grosses, pas pourquoi on les appelle comme ça, Gordillas en espagnol, c'est assez rigolo. Ce sont donc des Clarisses. Et ce monastère va aider beaucoup Sainte-Thérèse lors de la fondation de Saint-Joseph. Vont donner quelques aumônes, des aliments, de la nourriture, tout ça. Mais surtout, Sainte-Thérèse va avoir une vision intérieure de Sainte-Claire d'Assise qui va l'encourager beaucoup dans le sens d'une pauvreté radicale pour le monastère. Hein? Ça a été un combat très grand et ça apparaît dans le chemin de la perfection au chapitre 2. Le combat pour la pauvreté à Saint-Joseph d'Avila était un combat très fort. Toute la ville y était opposée parce que ça faisait un monastère de plus dans la ville, un monastère de sœurs pauvres qui demandaient des aumônes, et il y en avait déjà beaucoup. Donc les autres monastères étaient jaloux, et ensuite la ville était furieuse parce que ça faisait encore des bouches à nourrir. Donc il y a eu un grand combat autour de la fondation du monastère de Saint-Joseph d'Avila qui a duré sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et Sainte-Thérèse a été rassurée par cette vision de Sainte-Claire qui l'a beaucoup encouragée. Et tout l'aspect qui est donné sur la pauvreté dans le chemin de la perfection est lié à ça. Et aussi à la confirmation que lui donnera Saint-Pierre d'Alcantara. Il lui écrira une lettre très célèbre sur la pauvreté. Donc voilà. Tout ça, c'est dans le même quartier. Ça se tient comme un mouchoir de poche. Nous sommes au monastère Saint-Joseph d'Avila avec la façade postérieure à la fondation et postérieure au chemin de la perfection. Le monastère s'est un peu agrandi. Elle a conçu le monastère en achetant deux maisons particulières, pas grandes, pour ne pas faire de bruit. Elle ne voulait pas de grandes abbayes comme il y avait à l'époque, abbayes luxueuses. C'est vraiment une réforme, dans le sens de la pauvreté, de la radicalité évangélique. Donc, elle fait acheter deux maisons, qu'elle fait occuper par son beau-frère et sa belle-sœur pour ne pas faire de bruit et aménager. Et donc le monastère, quand on le visite, moi j'ai eu la grâce de le visiter, ses clôtures, donc avec Monseigneur Panafieux, à l'époque archevêque d'Aix-en-Provence, et le séminaire d'Aix-en-Provence en 91, on a demandé une permission à l'évêque d'Avila, il nous a permis d'entrer en clôture. Normalement, c'est clôture papale, il n'y a que les cardinaux. On est entré et on n'a pu entrer que les prêtres et le pauvre diacre qui était moi-même à l'époque, parce qu'ils avaient besoin d'un traducteur, donc ils ont eu besoin de moi. Alors j'ai pu entrer. Et on ne pouvait pas entrer plus de 7 personnes. C'est tellement petit. Les pièces sont tellement petites. C'est impressionnant. Très, très petit. On a de la peine à imaginer. Donc c'est très petit et très, très pauvre, très modeste. Voilà, Saint-Joseph. Donc monastère dédié à Saint-Joseph. Hein, Saint-Joseph qui, plus que lui, a été proche du mystère de l'incarnation, du Fils de Dieu et de la Vierge. Ensuite, Saint-Joseph qui a guéri Thérèse dans ses maladies. Et qui était le grand pourvoyeur de Thérèse dans les fondations. Voilà le cloître intérieur, très joli, en granit de Castille. La chapelle primitive dédiée à l'apôtre Saint Paul, car il n'avait que le nom de Jésus qui lui tombait de la bouche. La grille, qui était la grille de communion pour les religieuses. À l'époque, c'était beaucoup plus bas de plafond et beaucoup plus haut de sol. Ça a été aménagé ensuite. Donc c'était à la même hauteur. Elles ont communié par là. Elles ont reçu l'habit, les quatre premières, le jour de la fondation, le 24 août. Et vous voyez, tout est fait pour qu'il n'y ait aucune communication. On ne peut passer aucun billet. Clôture stricte, il y a des pointes, enfin, il y a tout ça. Voilà, la cellule de Thérèse qui nous intéresse beaucoup, car c'est là qu'elle a écrit le chemin de la perfection. Alors, je suis très embêté par ça, je ne sais pas comment je fais. Le chemin de la perfection. Donc, vous voyez sa cellule, la paillasse, une espèce de descente de lit, mais qui lui servait de lit quand elle partait en voyage. Elle dormait à la porte du monastère pour ne pas faire de bruit dans le couloir. Elle dormait sur ça. Ce n'est pas une descente de lit, en fait, c'est un lit de liège. Et vous voyez, elle écrivait de liège. C'est un arbre typique de la péninsule ibérique avec lequel on fait les bouchons de bouteilles. Donc c'était en liège, voilà. Donc elle écrivait non pas à une table tranquillement, comme quelquefois elle est présentée, elle écrivait assise sur ses talons, sur ce petite chose-là, ce coin, et vous voyez comment elle faisait avec sa plume, donc voilà. Le soir, quand tout le monde dormait, qu'elle n'avait pas autre chose à faire. Elle s'adresse à ses sœurs et à ses filles qui dorment, en fait, hein, quand elle s'adresse à elles dans le chemin de la perfection. Peut-être qu'ils ronflent, je ne sais pas. Alors voilà, hein, l'autographe, la couverture, este libro. Alors c'est une calligraphie très difficile à lire, chapitre 3e. Bon, vous allez voir, elle est très difficile à lire. Hein. Il faut connaître le texte lui-même pour pouvoir repérer, à moins d'être le père Thomas Alvarez, là, lui, c'est fait. Alors, voyez les annotations. Là, ce serait plutôt d'elle, me semble-t-il. Mais bon, on ne sait pas. Hein, il faut, on ne sait pas trop hein, son écriture. Les soulignements, on ne sait pas trop. On ne sait pas tout. Hein. Il y a des mystères dans ce texte. Alors, voilà. Alors, ça, c'est une annotation d'un censeur. C'est à propos des scrupules et des craintes et des fausses humilités. Ce chapitre est très notable, aussi bien pour Paralos, de humildades falsas, affectés par tentados, par ceux qui sont tentés par les fausses humilités que par les confesseurs, que pour les confesseurs. Donc ça, c'est le censeur qui a écrit ça, vous voyez. Ah, voilà. Donc il y avait la pagination à elle, après elle se mélange les pinceaux. Ça c'est le chapitre 38 qu'on va étudier de près, sur le pardon des offenses. Hein? Le commentaire du Notre Père, Dimitte nobis debita nostra. Vous voyez, Dimitte nobis debita nostra. Donc elle le cite en latin. Hein? Elle va commenter ça. Et vous voyez tout ce qui a été rayé par le censeur. Même dans le texte de Valladolid, même dans la deuxième version, on verra pourquoi. C'est impressionnant. Et pour que ce ne soit pas lisible. Ce n'est pas seulement raturé, c'est pour que ce ne soit pas lu, pas lisible. C'est en rond, vous voyez. C'est terrible.
On a pu le récupérer.
Oui. Oui, on peut le récupérer. Ouais. Avec la photographie, oui, des procédés. Même dans celui de l'Escorial, qui a été photographié au 19e siècle par un grand photographe au 19e siècle, il demande pardon à Sainte Thérèse parce qu'il est allé chercher ce qu'il y avait derrière ça. Et il s'excuse auprès d'elle dans la présentation. C'est rigolo. Vous voyez, c'est impressionnant, hein. Pour qu'on puisse pas lire. Donc ça, c'est encore quelque chose qui a été recorrigé, rayé, tout ça. Et ensuite, je vous ai mis les fondations pour que vous voyez, vous situiez les lieux où sont conservés les textes. Donc vous avez Valladolid ici, Tolède ici, Avila ici. Il y a aussi une copie à Salamanque, il y en a une autre à Madrid, mais Madrid n'est pas sur les cartes. Voilà. Et l'Escorial, qui n'est pas une fondation de Thérèse, mais le palais monastère du roi, est par là, en gros. En gros, par là. Madrid est par là. Ça va ? Bien. Voilà le palais monastère de l'Escorial. Pour célébrer la victoire de Philippe II des Espagnols sur les Français à la bataille de Saint-Quentin, en 1551 ou 57, j'ai oublié.
Qu'est-ce qu'il y a maintenant
à l'Escorial ? Ah, c'est toujours palais monastère et il y a un grand collège d'Augustin, il y a encore la bibliothèque royale, ouais. Il y a même un musée où il y a des tableaux du Gréco, ouais. C'est visité par les touristes. Ouais. Dédié à Saint-Laurent parce que et en forme de grille, conçu en forme de grille parce que c'est le martyr de Saint-Laurent. La victoire a été obtenue sur les Français le 10 août, le jour de la fête de Saint-Laurent. Et voilà la bibliothèque où est conservé le manuscrit. De l'autographe, donc de le premier, qu'on appelle de l'Escorial. Ça va ? Je pense que c'est clair en voyant les choses. Hein. Voilà, Valladolid, la ville de Valladolid, une superbe ville de Castille, qui a été capitale après Tolède, avant Madrid, de l'Espagne, avec une très belle église, style Renaissance, San Pablo, le collège des Dominicains, où résidait les censeurs de la Sainte, collège San Gregorio. Vous voyez ce style qu'on appelle plateresque, de l'époque des rois catholiques, qui vient de plata, qui veut dire argent, car c'est ciselé comme des ouvrages en argent. Voilà, c'est le style Renaissance espagnol, avant le baroque. Voilà, là, une église dédiée à Notre-Dame à Valladolid. C'est une très belle ville, une ville universitaire, Valladolid. Et voilà le Carmel. Voilà, tout simple, dédié à Saint-Joseph encore. Saint-Joseph et l'enfant. Qui conserve donc ce manuscrit que je vous ai montré en autographe, avec une statuette de l'enfant Jésus, pèlerin de Saint-Jacques. Ça vous voyez. Là, dévotion à l'enfant Jésus, très typique du Carmel thérésien, et puis l'enfant Jésus habillé et habillé en pèlerin de Saint-Jacques. Bon. Tolède, donc ville impériale, capitale de l'Espagne en son temps, à l'époque des trois religions, etc. La cathédrale, l'Alcazar, plus récent, le Taj, hein, la cathédrale, une des cinq nefs, et voilà le Carmel, de l'époque de Sainte Thérèse, c'est déjà le deuxième lieu. Hein, donc, là où est conservée cette copie d'une sœur qu'elle a corrigée, avalisée, et qui a été publiée en premier, mais qui a été rejetée finalement en bloc par les carmélites qui voulaient les textes vraiment originaux et autographes de la sainte et les versions premières. Quoi. Donc ça, c'est le manuscrit de Tolède. Dans ce couvent, il y a aussi un très beau tableau du Christ, de la Passion. Donc tout ça, c'est pour vous signaler toute cette place du mystère du Christ hein, dans le style de vie élaboré par Thérèse. Ça, c'est évidemment les tambourins pour la récréation thérésienne conservée à Tolède. Je l'ai mis ça aussi. Et puis, une dernière icône de Thérèse toute récente que j'ai trouvée chez les Pères Carmes à Córdoba, en Argentine, l'an dernier. Voilà. Docteur de l'Église est là avec le monastère de Saint-Joseph. Voilà. C'est tout. On travaille. Voilà. Voilà. On peut allumer et travailler. Je n'ai pas laissé pour l'instant de place aux questions. Je pense que c'est plutôt une question d'information. Pour l'instant, on aura des plages pour les questions davantage quand on sera entré dans le texte. Nous allons aborder le deuxième point idéal thérésien, lecture commentée des chapitres 1 à 4-4. Alors, pour ceux qui avaient quand même ce texte de l'Escorial, il est très intéressant, il est très vivant, c'est le premier. Et ça a été traduit en français très bien par une traductrice qui est excellente, qui malheureusement a disparu, qui a dû mourir. Jeannine Poitret, c'est elle qui traduisait le mieux Sainte Thérèse d'Avila. Avec le plus de rigueur théologique, avec une même plume que Marcel Auclair, et c'est très bon. Mais elle n'a fait que ce manuscrit d'Escorial, donc c'est intéressant parce qu'elle est là en français, dans cette version-là au Cerf, des années 80. Et puis elle a fait le livre des demeures et les exclamations. Puis c'est tout. Après, elle a disparu, elle a dû mourir. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Voilà. C'est dommage parce que c'était elle la meilleure des traductions en français. Voilà. Bien. Alors, nous abordons ce point 2. Je vous ai mis un certain nombre de clés. Vous pouvez regarder que nous allons travailler. D'abord, l'horizon ecclésial de la prière. Unité d'Église, sainteté et qualité des ministres de l'Église, prédicateurs de la vérité. Ensuite, un aspect, on va travailler, lire quelques textes. Chapitre 1, paragraphe 2 notamment. Je me détermine à faire le petit peu qui était en mon pouvoir au milieu de mes sœurs. On verra tout ce que ça signifie. Puis, nous passerons au chapitre 3 parce qu'elle redit encore, elle redéveloppe hein, le projet qu'il y avait dans la fondation de ce monastère et qui est finalement l'axe du chemin de la perfection. Hein, voilà. Bon, pour donc situer l'enseignement qu'elle donne hein, dans le contexte ecclésial. Hein. Le chemin de la perfection a une dimension ecclésiale. La prière qu'elle prône, qu'elle promeut, a un horizon ecclésial. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est fondamental pour le Carmel thérésien. Hein. Et évidemment, c'est une clé aussi pour le charisme, la mission de Thérèse de Lisieux. Hein. Voilà. Ensuite, ben comme nous avons déjà travaillé les autographes de l'Escorial et Valladolid, je ne reviens pas, donc ce sera très bien, mais vous allez toucher du doigt, on va lire un texte de l'Escorial, pour que vous voyez un petit peu pourquoi il a été retiré. Ce sera très intéressant. Et ensuite, la grande entreprise d'une petite femme misérable, on verra les clés de départ du chemin de la perfection. Hein, 4, 1, 2, 1, 3, 4. Hein, les clés qui nous permettront d'aborder dès demain les chapitres 4 à 18, c'est un premier bloc du chemin de la perfection qui s'intéresse, on lui demande de parler de l'oraison et elle parle d'autre chose. Ça, c'est elle. Et elle dit pourquoi elle parle d'autre chose, elle se justifie. Et c'est tout à fait justifié. Donc, elle parle de cette cohérence de vie qui doit aller avec l'oraison. Ça va ? Pendant 15 chapitres. Il faut s'y faire, il faut accepter. Voilà, c'est ce que nous aborderons demain au point 3. Voyez où on va. Alors, dès les chapitres 1 à 3, ce sont des chapitres vraiment fondateurs hein, pour l'esprit thérésien, Sainte Thérèse s'emploie à convaincre ses sœurs de la grandeur de l'idéal qui les a réunies au monastère de Saint-Joseph. Grandeur de l'idéal. Vous voyez, avant, elle a dit c'est des petites choses, c'est des petits remèdes, c'est des tentations religieuses, les théologiens ne s'en occupent pas, c'est pas leur affaire, très modeste, tout ça. Prologue, elle a mis ça comme ça. Puis alors maintenant, voilà, c'est autre chose. Hein. Grandeur de l'idéal. Hein. Bien. Alors, quel est cet idéal? Il est rien moins que la prière efficace pour l'unité des chrétiens et la sainteté des membres de l'Église. Qui vient de vivre, qui vit, qui vient de vivre et qui vit une grande souffrance, une grande épreuve, la déchirure, la rupture de l'unité de sa foi dans l'Église latine d'Occident, avec la réforme protestante. Il faut quand même avoir en tête quelques dates, comme ça, pour ne pas se perdre. Hein, mais donc, Sainte Thérèse écrit le chemin de la perfection en 1566. Les deux versions, on est d'accord ? Début d'année et puis automne. Hein. Bon. Alors, 1562-63, c'est la troisième période du Concile de Trente, avec les décrets disciplinaires notamment, mais aussi le décret sur l'Eucharistie comme sacrifice. Hein. Donc c'est 30. Et vous voyez, quand elle fonde Saint-Joseph d'Avila, quand la réforme commence, c'est 1562, le 24 août, on est dans la dernière période du Concile de Trente, qui va imposer la clôture de tous les monastères féminins, et elle se lance dans la clôture, donc ça coïncide tout à fait. Bon, alors, vous avez ensuite, si vous remontez quand même assez loin, 1546, la mort de Luther. Ça va ? Si je ne me trompe pas, hein, dans les dates, je crois que 1563, c'est la mort de Calvin. Ouais. Vous avez 1545-47, c'est la première étape du Concile de Trente. Il y a trois étapes du Concile. Hein? C'est le décret sur la péché originel, justification, Saintes Écritures, péché originel, justification. C'est la première période de Trente, ça. Hein? Bon. La deuxième période de 30, c'est 1551-52. Là, c'est encore 30, deuxième période, avec une partie à Bologne, à cause de la menace des guerres. C'est un contexte de guerre entre l'Empire, l'Italie, le roi de France. Enfin, c'est toute une salade historique et politique et militaire. Hein. C'est très compliqué. Le Concile est sous la menace de la guerre. C'est pour ça qu'il doit se transférer. Ici, c'est davantage la partie sacramentaire. Sacrement de la pénitence, sacrement de l'Eucharistie, la présence réelle, là. Voilà, c'est davantage ça. Bon. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se situe. Et vous avez déjà dès... Alors, en 1559, alors là, c'est important au niveau de l'Espagne, c'est l'index maximum de l'Inquisition, de l'inquisiteur Valdès, archevêque de Séville, grand inquisiteur d'Espagne, Fernando de Valdès. Index de l'Inquisition qui met un index, c'est clair. Toutes les traductions de la Bible en langue vernaculaire, en espagnol. La Bible n'est plus accessible qu'en latin, à ceux qui savent le latin, dans l'édition de la Vulgate. Et ensuite, cet index aussi met à l'index un certain nombre d'ouvrages de spiritualité qui notamment parlent de l'oraison, la prière intérieure, l'oraison mentale. Et dans cet index se trouve... Laudifilia de Saint Jean d'Avila qui risque d'être proclamé docteur de l'Église, donc c'est assez sympathique de voir ça, hein, les retournements. Des opuscules de Saint François de Borgia, il n'avait pas eu le temps de les relire, l'éditeur l'avait publié et il s'est trouvé à l'index. Enfin, voilà, Louis de Grenade, enfin, tous les grands spirituels ont des ouvrages à l'index. Donc c'est quelque chose d'assez terrible à ce moment-là. Hein. Donc la période à partir de là est assez rigide en Espagne, alors que la première moitié du siècle est extrêmement effervescente, libre, créative, etc. Ça devient extrêmement rigide. Hein. Et puis il y a les clarifications du Concile de Trente qui arrivent, donc ça se renforce. Mais c'est aussi en France, et c'est très important, le démarrage des guerres de religion. Déjà 1559-60. Alors là, c'est pas Alors, Sainte Thérèse, elle parle des luthériens. Mais les luthériens, c'est une nébuleuse à l'époque. Les luthériens, ça veut dire, surtout qu'elle s'adresse, elle parle de la France. Hein, donc, c'était en majorité en France les réformés, c'est-à-dire les calvinistes. Hein. Mais en Espagne, et aussi, j'allais dire, au regard de la hiérarchie, quand elle écrit encore, c'est une espèce de nébuleuse que ce protestantisme. Donc, c'est Luther qui a démarré en Allemagne en 1517, hein, avec les thèses. Hein. Et donc, ça lui est attribué, c'est les disciples, c'est dans la mouvance d'eux, etc. Alors que les réformateurs sont quand même assez nombreux et variés. Hein. Mais en Espagne, vous voyez l'Espagne, comment c'est fait, la péninsule ibérique. Hein. Il y a les Pyrénées, ça ne se traverse pas. De toute façon, la France, c'est l'ennemi. Tout le 16e et 17e, la France est l'ennemi de l'Espagne. Donc on ne traverse pas les Pyrénées. Ce qui peut arrive par les bateaux, par les ports, et c'est complètement contrôlé par l'Inquisition. Tout ce qui arrive d'ailleurs, de Genève, des Flandres, de Belgique, enfin, ouais, tout ça, d'Italie, tout ça, hein, c'est contrôlé comme ça. Donc, c'est le grand blocus. Hein. Alors, les luthériens, c'est cette nébuleuse des hérétiques. Dans la mouvance de Luther. Ça va ? Donc, elle n'emploie jamais le mot huguenot, elle n'emploie jamais le mot calviniste, et pourtant, elle parle des malheurs de la France. En France, on sait que les guerres de religion qui sont contemporaines, c'est avec les huguenots, les calvinistes. Beaucoup plus qu'avec les luthériens, qui sont majoritaires, et les calvinistes sont majoritaires en France. Hein ? Bien. C'est pour dire que les précisions ne sont pas très grandes quoi, dans sa tête. C'est ce qu'elle entend dire. C'est ce qu'elle entend dire parce qu'il y a des libelles royaux, c'est-à-dire le roi fait battre tambour, annonce des nouvelles, et puis a tendance à dramatiser la question protestante parce que ça lui permet d'être en guerre avec la France et avec les autres pays aussi, hein, et de maintenir une partie de l'Europe sous sa botte. Donc ça c'est clair, c'est Philippe II, hein, c'est très net. Bon, et puis la deuxième chose aussi, c'est par des théologiens censeurs, confesseurs, donc tout ça c'est très filtré, quoi, très très filtré. Donc elle a une connaissance du protestantisme très très vague, très très vague. Oui. Mais l'important c'est de voir sa réaction, c'est ça qui nous intéresse. Alors on va lire le texte, c'est donc... Je vais vous donner la référence. Chapitre 1er, paragraphe 2. Donc CP Valladolid, hein, CV, on va mettre hein, 1-2. Alors, est-ce que le lecteur peut commencer ? J'avais appris les malheurs de la France et les ravages qui avaient fait ces luthériens et combien se développait cette malheureuse
secte.
J'en ai eu grand chagrin. Quand même 4 siècles pour l'œcuménisme. Hein, donc,
J'en ai eu grand chagrin, et comme si je pouvais quelque chose, ou comme si j'eusse été quelque chose, Je pleurais devant le Seigneur et le suppliais de remédier à tant de maux. Je me sentais capable de donner 1000 fois ma vie pour sauver une des nombreuses âmes qui se perdaient là-bas. Me voyant femme et misérable, dans l'impossibilité d'être utile au service du Seigneur comme je l'aurais voulu, alors qu'il a tant d'ennemis et si peu d'amis, je n'aspirais et n'aspire qu'à ce que ses amis soient excellents. J'ai donc décidé de faire le tout petit peu qui était à ma portée, c'est-à-dire suivre les conseils évangéliques aussi parfaitement que possible et tâcher d'obtenir que les quelques religieuses qui sont ici fassent la même chose, confiantes en la grande bonté de Dieu qui ne manque jamais d'aider quiconque décide de tout quitter pour lui. Comme ces religieuses étaient telles que je les souhaitais, mes fautes seraient inoffensives au milieu de leurs vertus. Je pourrais contenter le Seigneur un tant soit peu, et toutes ensemble vouées à prier pour les défenseurs de l'Église, pour les prédicateurs et les théologiens qui la défendent, nous aiderions, dans la mesure de nos moyens, mon Seigneur, si opprimé par ceux auxquels il a fait tant de bien, puisqu'il semble que ces traîtres voudraient le remettre sur la croix, sans qu'il trouve où reposer sa tête.
Bien, vous reconnaissez certaines phrases de l'Évangile, hein, et le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête, bien sûr. Et vous voyez aussi les qualificatifs hein, à l'égard du protestantisme, donc malheur de la France, les ravages qui ont fait les luthériens, la malheureuse secte, et maintenant les traîtres qui le remettent en croix, hein, et il est harcelé par ceux-là même à qui il a fait tant de bien. Ce sont les chrétiens, les baptisés. Ça va ? hein, qui sont les bénéficiaires de la rédemption. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur un ton œcuménique, hein, c'est le ton de l'époque, hein, évidemment, il est plutôt agressif, hein, c'est cela. Hein. Dans le chemin de la perfection, c'est assez notable. À la fin du château intérieur, tout à la fin, elle dit qu'elle demande que l'on prie avec elle pour les luthériens. Comme ça, ça se termine comme ça. 1577, c'est 11 ans après. Bon. Alors, voilà un premier aspect. Donc, cette rupture apportée à l'unité de l'Église, hein, par la réforme protestante, par la protestation. Bien. Premier point, donc souffrance de l'Église, rupture de l'unité de la foi, souffrance de l'Église. Deuxième point qu'il faut relever dans ce texte, nous avions tout à l'heure dans le prologue cette question un petit peu du féminisme complexé ou du complexe féminin, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Hein. Alors vous voyez que, donc me voyons femme et misérable, ça va revenir, c'est récurrent, hein, misérable, sa misérable vie, parce qu'elle a été ingrate à Dieu. Donc de ce point de vue-là, elle est très lucide, elle voit le péché dans sa gravité, et donc elle se considère comme misérable, elle a manqué à Dieu, bon, et puis femme, c'est sa condition. Mais au fond, il n'y a pas d'amertume, elle avance. Dans cette situation-là, voilà ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est ce tout petit peu qui était en mon pouvoir. Voilà la réponse thérésienne, qui est très intéressante, me semble-t-il, sur le plan spirituel et ecclésial. Je me déterminais. Donc ça, c'est l'esprit thérésien, se déterminer, force, détermination, courage, vigueur, magnanimité, vertu proprement thérésienne, hein, à faire ce petit peu qui dépendait de moi. Donc devant les maux de l'Église, les souffrances de l'Église, elle ne se présente pas comme une réformatrice, hein, elle ne va pas publier les thèses sur les indulgences. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça le propre de la sainteté, hein. Les saints commencent par se réformer eux-mêmes, hein, et par marcher vers la sainteté, hein, et ensuite à offrir, ils offrent la réponse qui est dans leur possibilité. Et donc, elle est consacrée, elle est religieuse, suivre les conseils évangéliques avec toute la perfection possible. Donc c'est une réponse par la qualité, par la sainteté personnelle, par la qualité, c'est très important cela, c'est vraiment un grand axe du chemin de la perfection, et de l'esprit thérésien. Mais ce n'est pas seul, c'est au milieu des autres, c'est en communauté, dans une famille spirituelle, faire en sorte que les quelques sœurs qui sont ici fassent de même. Elles sont telles que mes désirs se le représentent, donc elles louent ses sœurs, c'est l'humilité par rapport aux autres. Bon, je pourrais ainsi contenter le Seigneur. Ce n'est pas un projet qu'elles mènent à bien seules, c'est en communauté, en solidarité. Évidemment, ce projet... et sous le chemin de la perfection. Elle a confiance, au fond, vous voyez, elle a cette conscience d'être femme et misérable, mais elle a conscience aussi que son désir du salut des chrétiens peut aboutir. Hein. Elle a cette confiance, cette espérance, aussi en la puissance d'intercession de la communauté qui compense toutes ses indignités personnelles. Donc, elle n'hésite pas à épouser la cause du Christ et de son Église. Elle doit faire comprendre que c'est la seule cause qui mérite le don d'une vie. Hein? C'est la cause du Christ et de son Église. Oui, c'est une humilité et une modestie, mais qui ne la rend pas pusillanime. Hein? Elle est... Voilà. Elle dira, alors vous avez ce texte, c'est peut-être pas la peine de courir après parce qu'il est très court, mais il faut le connaître, hein, il faut le savoir de mémoire. 1, paragraphe 5. Je le coupe, on va pas le lire, on va en lire un plus long après. Le monde est en feu, on veut de nouveau juger le Christ, comme on dit, c'est ce qu'elle a entendu dire, c'est ce qu'elle entendait dire, des censeurs, peut-être des libelles du roi, j'en sais rien. On lève contre lui 1000 faux témoignages et l'on veut mettre son Église par terre. Vous retrouvez ça, enfin c'est pas grave, hein, vous allez le retrouver, c'est paragraphe 5. Non, mes sœurs, ce n'est pas le moment de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. Sainte Thérèse, oui c'est bien 1-5, c'est bien ça, oui. C'est un bien bel mono. Vous l'avez, hein? Donc Sainte Thérèse, évidemment, elle écoute ses sœurs qui lui disent « Oui, il faut prier pour monsieur un tel, madame un tel, qui nous ont donné un peu d'argent, qui... » veulent que leur défunt ne reste pas en purgatoire et tout ça. Très bien. Mais enfin, quand même, il y a des soucis plus importants. C'est ça qu'elle leur fait comprendre. Ça va, hein? L'heure n'est pas de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. Hein? On veut de nouveau juger le Christ, mettre son Église par terre, le monde est en feu. L'ardeur, ça va? Bon. Alors, au chapitre 2, elle invite ses sœurs à la confiance absolue en l'époux divin, c'est le Christ, qui va pourvoir aux besoins de chaque jour. C'est un chapitre qui est consacré à la pauvreté, on ne s'y attarde pas. Chapitre 2. Hein. Pour leur faire comprendre que même si s'il n'y a pas de quoi manger, il ne faut pas qu'elles s'inquiètent. Elles ont remis leur vie au Christ. Donc, il n'y a pas besoin de se faire de soucis. Ça va? Et que si elles meurent de faim, elle leur dit « Bienheureuses soient les sœurs de Saint-Joseph d'Avila, s'il leur arrive de mourir de faim. » Bien. Vous voyez, c'est assez vigoureux hein, comme enseignement. Bon. Alors, au chapitre 3, et nous allons lire un petit peu plus là, elle revient encore, vous voyez qu'elle se reprend, elle recommence, elle ne fait pas un plan, ce n'est pas du tout à la manière cartésienne et française, hein, voilà, ça ne la gêne pas de recommencer. Mais quand elle recommence, elle ne se répète pas réellement. Elle approfondit et on a d'autres éléments, donc c'est très intéressant. Il faut accepter que cette impression de comme ça, quand ça recommence, c'est comme ça. Bien. Donc elle revient au but qui les a réunis à Saint-Joseph, n'est-ce pas, hein? Elle continue sur ce qu'elle a dit dans le chapitre premier, qu'elle a commencé à traiter, et elle persuade ses sœurs qu'elle soit toujours occupée à supplier Dieu qu'il favorise ceux qui travaillent pour l'Église. Elle termine avec une exclamation. Alors, c'est un autre aspect intéressant du texte. Ce qu'elle appelle exclamation, ce sont des prières spontanées. Il y a même un livre, un recueil dans les œuvres complètes qui s'appelle Les Exclamations. Il y en a une dizaine. Ce sont des prières spontanées, là, spécialement en action de grâce, à l'Eucharistie, à la communion. Alors, le texte a toute cette part de réflexion, d'enseignement, didactique, mais a aussi toute une part de prière. C'est-à-dire que Thérèse, tout à coup, s'adresse à Dieu, s'adresse au Christ, supplie Dieu le Père en faveur de son Fils, etc. Vous allez voir ça. C'est très fréquent dans le chemin de la perfection. Ça fait partie de sa méthode. Alors, nous allons lire 3, 2 et 3, 5.
Je vais vous faire couper. On va voir ce qu'on peut faire. 3, 2 et 3, 5.
Alors, vous allez voir quelques métaphores qui nous permettent de comprendre et qui déjà nous annoncent des symboles à venir dans l'œuvre thérésienne.
Mais pourquoi ai-je dit cela ? Pour que vous compreniez, mes sœurs, que ce que nous devons demander à Dieu, c'est que nul...
Un petit instant, merci. Donnez deux petites précisions. Je préfère, là. Alors, elle veut revenir aux choses essentielles pour lesquelles le Seigneur nous a réunis dans cette maison. C'est le début du chapitre 3. Hein. Et elle dit qu'elle veut, elle désire beaucoup que nous soyons quelque chose pour contenter le Seigneur. Elle dit une chose qui me paraît très intéressante sur un plan ecclésial et bon. Elle dit que malgré ce qu'elle voit et malgré les bonnes intentions du roi, ce n'est pas le bras séculier qui va nous tirer d'affaire, dit-elle. Ce n'est pas une répression du protestantisme en Europe ou en Espagne, hein. Sous-entendu, hein, qui va nous tirer d'affaire, dit-elle. C'est assez intéressant, ça. Elle a une vision quand même sur les événements politiques et religieux et cet amalgame. Le roi se sent le grand défenseur de la foi catholique, il est le roi catholique, il se sent identifié complètement à la réforme catholique, hein, et donc, tout est, comment dire... Les œuvres et les guerres qu'il entreprend sont aussi au service de cette défense de la foi catholique. Et Thérèse dit très nettement dans le paragraphe 1 et 2, de manière, elle se reprend tout ça en bon, mais c'est net que ce n'est pas le bras séculier, mais le bras ecclésiastique qui donnera la solution, qui nous tirera d'affaire. C'est-à-dire, la solution, elle est dans l'Église. Elle n'est pas par l'extérieur. Elle n'est pas une solution politique ou militaire. Je crois que c'est assez intéressant parce que ce n'était pas la conception de l'époque. Ce n'était pas les préjugés de l'époque. Vous voyez ça ? Je crois que ça vaut la peine de relever ça chez elle. Elle dit en particulier à la fin du paragraphe 2. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai. Ah ben oui, ben c'est ça qu'on va lire. Ouais, ben voilà, c'est ça. Oui, déjà dans le paragraphe 1, il y a l'expression être tel. Ah oui, ça vaut le coup quand même de lire ça. Oui, on va lire le 1 quand même. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Désolé, pardon.
J'en reviens à la raison principale pour laquelle le Seigneur nous a réunis dans cette maison et au grand désir que j'ai que nous soyons capables de contenter Sa Majesté. Donc, devant de si grands maux et l'impuissance des forces humaines à arrêter l'incendie que ces hérétiques ont allumé, malgré qu'on ait tenté de lever des gens pour lutter par la force des armes contre un si grand mal qui va croissant, il faut, m'a-t-il semblé, agir comme en temps de guerre, lorsque les ennemis ont envahi tout le pays. Le Seigneur, se voyant acculé, se retire dans une ville qu'il fait très bien fortifier et d'où il réussit parfois à tomber sur l'ennemi. Ceux qui sont dans la ville, gens de choix, peuvent faire davantage à eux seuls que de nombreux soldats qui seraient lâches. Et ils remportent ainsi fréquemment la victoire. Du moins, s'ils ne gagnent pas, ne sont-ils pas vaincus ? Car s'il n'y a pas de traître, on ne peut les dompter que par la famine. Ici, la famine ne peut vous obliger à vous rendre. À mourir, oui, mais pas à vous avouer vaincu.
Bien. Et donc, situation militaire donne à Thérèse une métaphore, celle du château. C'est la première fois qu'elle l'emploie. Hein. Elle ne l'emploie pas comme plus tard, comme château de l'âme, l'intériorité de la personne, mais c'est l'église château fort. Hein. L'église sur la défensive, hein, qui se retire et qui va résister et reconquérir, hein, avec une poignée de gens. D'accord ? Ce qui importe, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Vous voyez, elle va dans ce sens-là, la qualité, hein, de ceux qui se retirent dans le château fort. Évidemment, ceux qui étaient au voyage, qui connaissent les lieux, vous voyez les remparts d'Avila, bon, c'est clair, tout ça c'est éclairant, hein, devant, avec ce qu'elle dit. Hein. C'est pas bien traduit, c'est Marcel Auclert. Et être tel ceux qui sont dans la ville, parce qu'une des grandes clés de ce chapitre, c'est être tel que, ser tales. Être tel ceux qui sont dans la ville, car ce sont des gens choisis, qu'ils puissent, à eux seuls, davantage que beaucoup de soldats, être tel. Et c'est la grande question qui se pose pour elle dans ce chapitre, et ça va être l'articulation des chapitres suivants, être tel que le Seigneur nous entende. Avoir les qualités telles que, pour que. Et donc, ce mot tout simple en espagnol, c'est tales, c'est rien du tout, c'est une articulation fondamentale parce qu'elle va passer de l'oraison, la prière, à l'orant, à la personne qui prie. Et il faut qu'il y ait une cohérence. Et c'est ça qui est important comme articulation ici. Donc, c'est la qualité. Ça va, alors on peut passer maintenant au paragraphe 3. Ah, ils sont tous les deux à Marcel Auclert, donc on ne s'en sort pas avec eux. Hein. C'est la galère, ça. Bon, tant pis, ça ne fait rien. On vous corrigera.
Mais pourquoi ai-je dit cela ? Pour que vous compreniez, mes sœurs, que ce que nous devons demander à Dieu, c'est que nul des bons chrétiens qui sont dans ce petit château fort ne nous quitte pour rejoindre l'ennemi, et qu'il fasse faire de grands progrès dans les voies du Seigneur aux capitaines de ce château fort ou de cette ville, qui sont les prêtres et les théologiens.
Alors, vous voyez, ce n'est pas les prêtres, c'est les predicadores y teólogos. Ce sont les prédicateurs. Et évidemment, Sainte Thérèse, les censeurs de Sainte Thérèse de ce livre, ce sont deux dominicains. Donc, normal qu'elle mette les prêcheurs, les prédicateurs et les théologiens. C'est tout à fait normal. Bien.
Et puisque la plupart d'entre eux appartiennent à des ordres religieux, qu'ils aillent très loin dans la perfection qui est leur vocation, c'est très nécessaire. Car désormais, comme je l'ai déjà dit, c'est le bras ecclésiastique qui doit nous soutenir et non pas le bras séculier. Et puisque nous ne valons rien pour aider notre roi d'aucune de ses façons...
Alors, d'aucune de ses façons, avec le bras séculier, d'accord ? L'armée, hein, les forces militaires, hein, politiques, c'est ça le bras séculier.
Efforçons-nous d'être tels que nos prières méritent d'aider ces serviteurs de Dieu qui ont tant travaillé à se fortifier par l'étude et une vie exemplaire pour aider maintenant le Seigneur.
Voilà. Donc il s'agit d'aider le Seigneur et il s'agit d'aider ceux qui aident le Seigneur, qui sont pour elle les prédicateurs de la vérité de l'Évangile et les théologiens, les religieux. Il est clair dans la mentalité et à l'époque de Thérèse, 1566, hein, le fer de lance de la reconquête catholique, ce sont les religieux et ce sont les théologiens. C'est clair que aussi c'est le Concile de Trente qui va lancer les séminaires tridentins. Hein, donc la formation du clergé séculier, elle est infime à l'époque, tout à fait infime. Thérèse a eu des contacts avec des prêtres séculiers qui l'ont aidé. Hein, des prêtres diocésains qui l'ont aidé, mais évidemment les contacts les plus fructueux pour elle ont été avec les religieux, dominicains, jésuites, franciscains, etc. Donc évidemment ça transparaît ici. La réforme, enfin le lancement des séminaires, c'est après, hein. C'est clair, hein. C'est tout à fait net. Donc la formation du clergé séculier était tout à fait infime à l'époque. Quand elle a rencontré le prêtre de la ville de Bécédas où elle était en convalescence, il était complètement ignorant, il vivait en concubinage, enfin c'était une situation immorale et théologique et ecclésiale catastrophique, quoi. Et c'était assez typique. Saint Jean d'Avila a préparé des mémoires pour le Concile de Trente sur la formation des prêtres. Donc c'est quelque chose qui commence à bouger. Voilà. Alors ce qui me paraît intéressant, c'est que il faut que la prière vaille en français. Quelle est de la valeur? Nous n'avons pas de valeur, on ne peut pas être soldat, on est femme, tout ça, on ne peut pas faire politique, on est femme. Il faut que notre prière ait de la valeur. Et pour que notre prière ait de la valeur, il faut que nous soyons tels que, voilà, elle va le préciser ensuite. Pour qu'elle ait de la valeur, pour qu'elle soit entendue, pour que notre intercession soit entendue, et que cela rejaillisse sur ceux qui annoncent l'Évangile. Vous voyez cette compréhension que la prière est une mission dans l'Église, que l'intercession est une mission, hein, et que cela sous-tend, c'est la crypte de la mission de l'Église. On a déjà tout Thérèse de Lisieux, là. C'est clair. Ça, c'est là, pour elle, la grande mission du Carmel thérésien. Hein. Mais, voyez cette articulation, il faut être tel que nos prières vaillent, que Dieu les entende, que Dieu les exauce. Et qu'est-ce que ça va être, ça? Alors, nous allons lire un peu dans le paragraphe 5 aussi. De ce même chapitre.
Je vous demande donc de tâcher d'être tel que nous méritions d'obtenir de Dieu deux choses. L'une, qu'un grand nombre de très nombreux hommes doctes et religieux qui existent aient les qualités voulues, comme je l'ai dit, et que le Seigneur donne de bonnes dispositions à ceux qui ne seraient pas bien disposés, car un parfait sera plus efficace que beaucoup d'imparfaits. L'autre, qu'engagé dans le combat qui, comme je l'ai dit, n'est pas sans danger, le Seigneur les tienne par la main pour qu'ils évitent les périls du monde et bouchent leurs oreilles au chant des sirènes en cette mer périlleuse. Si nous pouvons obtenir quelque chose de Dieu dans notre clôture, nous combattons pour lui, et je tiendrai pour bien employer les peines que m'a coûté la fondation de ce recoin. Dans l'intention qu'on y observe cette règle de Notre-Dame et impératrice aussi parfaitement qu'à l'origine.
Bien. Alors, voyez, répétition au sujet des théologiens, doctes, letrados, on dit en espagnol, ceux qui ont des lettres, mais en fait, la Sagradas Letras, c'est les Saintes Écritures. Donc, les letrados, c'est essentiellement ceux qui peuvent interpréter les Écritures, auquel elle recourt pour savoir ce que disent les Écritures. C'est fondamental chez Thérèse. Donc, qu'ils soient disposés, hein, qu'il y en ait beaucoup qui soient disposés, s'ils ne sont pas disposés, que le Seigneur les dispose. Le mot disposition, c'est un terme très rigoureux de la théologie de la grâce et de la liberté à l'époque tridentine. On est disposé, on se dispose, bon, c'est clair. Bien. Ensuite, l'aspect belliqueux, batailleur, hein, agressif dans le combat. Étant en clôture, nous combattons. le Carmel où je vais travailler pour la traduction Je vois Dieu au Brésil, il y a au-dessus de la grille de clôture du chœur dans la chapelle cette phrase Estando encerradas, peleamos por él. Étant enfermés en clôture, nous combattons pour lui. C'est ça juste au-dessus, comme devise. C'est très, très typique. Étant enfermés, parce que nous sommes femmes, parce que nous sommes dans l'église, c'est notre mission, etc., tout ce que vous voulez, nous combattons. Conscience d'une mission réelle, d'accomplir une mission réelle et une mission efficace. Donc, vous voyez, c'est plus seulement, vous rappelez, des petits propos, petits conseils, des petits remèdes pour des tentations de religieuses. Hein, vous voyez, ça a pris une toute autre proportion, une toute autre dimension, une dimension ecclésiale, très combative, hein, une grande entreprise, elle va le dire après. Hein. Bien. Je voudrais que... Oui. Donc, vous remarquez aussi que ce qui est visé pour elle, c'est la qualité de la prière, mais c'est aussi la qualité des défenseurs de l'Église. On est toujours dans cet horizon de la perfection et de la qualité qui est la première réforme de l'Église. La réforme de l'Église commence par les personnes. C'est ça, hein, bien sûr. Alors, Sainte Thérèse va leur faire comprendre que oui, vous préoccupez de petites histoires, c'est très bien, et même de votre salut personnel, c'est très bien, mais même s'il fallait que vous restiez en purgatoire un certain temps pour sauver une seule âme, ce serait tout autre chose, hein. Donc vous avez ça à la fin du paragraphe. Pourquoi j'ai mis ça ? J'ai fait une erreur de référence que je vous demande maintenant de demander à Dieu. C'est qu'il nous écoute en ce que j'ai dit, car c'est pour sa gloire et le bien de son Église, l'attend de tous mes désirs. Pourquoi j'ai l'erreur ? C'est 3-7, alors ça veut... Oui, c'est le 6, oui. Et c'est l'Escorial 7. J'ai fait une petite erreur. Hein. 3-6. Ce que je vous demande maintenant de demander à Dieu, et moi, quoique misérable, je le demande à Sa Majesté avec vous, donc à intercession, c'est qu'il nous écoute, qu'il nous exauce en ce que j'ai dit, car c'est pour sa gloire et le bien de son Église l'attendre tous mes désirs. Contexte de la réforme protestante du Concile de Trente, chacun prie, lutte, enseigne, travaille pour la seule gloire de Dieu. Et tue l'autre pour la gloire de Dieu aussi. Pour sa gloire et le bien de son Église. L'attendent tous mes désirs. Hein? Bon. Soli Deo Gloria, Calvin. D'accord ? Ad Majorem Dei Gloria, Saint-Pierre. D'accord ? Bon, c'est ça. Là, c'est pour sa gloire et le bien de son Église. L'attendent tous mes désirs. Donc, vous voyez, les moyens modestes dont elle a parlé au début ne doivent pas nous dissimuler son ardeur combative et la force de son amour. Hein? La confiance dans la mission qu'elle reçoit du Seigneur. Hein? Et de l'Église, au fond. Alors, ensuite, on va terminer avec ça, il y a une espèce d'hésitation chez Thérèse. Dans les paragraphes qui suivent, une espèce d'hésitation, elle se dit, mais est-ce que c'est pas trop présomptueux? Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Nous ne sommes que des pauvres femmes, et moi je suis pécheresse, hein, et nous nous lançons dans cette grande entreprise. Hein. Il me semble, vous avez ça au début du paragraphe 7, disons-le,
il semble osé de penser que je puisse aider à atteindre ce but. Je me fie, mon Seigneur, à vos servantes qui sont ici. Je sais qu'elles ne veulent ni ne prétendent rien d'autre que vous contenter. Elles ont quitté pour vous le peu qu'elles avaient et voudraient avoir plus pour vous l'offrir. Vous n'êtes pas ingrat, mon Créateur. Je n'ai pas sujet de penser que vous refuserez ce qu'on vous supplie de faire. Vous n'avez pas non plus, Seigneur, haï les femmes quand vous étiez en ce monde. Vous les avez même favorisées avec grande pitié.
Bon, alors vous voyez, bon, il semble que ce soit trop audacieux, elle craint la présomption contraire à l'humilité, d'accord ? Bon, de penser que je puisse participer à ça, que je puisse l'obtenir, que je puisse y être pour quelque chose. Hein. Donc, j'ai confiance dans les autres, qui sont servantes du Seigneur, donc c'est la confiance dans la communauté, c'est très important comme leitmotiv dans le chemin de la perfection. Elle n'est jamais seule, hein. Sainte Thérèse d'Avila, quand elle communiait, elle était la première parce qu'elle était prieure, habituellement et fondatrice, elle se faisait exprès, précédée par une sœur pour la communion. Pour montrer, parce que d'abord elle avait le droit de communier chaque jour, la communion était entre les mains des confesseurs, donc ça veut dire que c'était confessé, tout ça, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Et donc elle pouvait communier chaque jour, et elle faisait exprès placer une sœur avant elle à la communion pour signifier ça. Que c'est, elle était avec, c'est très fort chez elle, cette nécessité de la solidarité avec les autres. Hein. Donc les autres la couvrent. Les autres la couvrent. Ah, c'est vraiment ça. Hein. Bon. Et elles veulent que votre service. Et, alors, un élément, un argument très intéressant, mais qui est coupé ici, alors vraiment magistralement, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil au texte de l'Escorial. Oui, Seigneur, vous n'avez pas méprisé les femmes quand vous étiez dans le monde, vous les avez beaucoup favorisées. Alors, s'il vous plaît, vous qui avez le texte là, lisons ce texte censuré, raturé, qu'elle a dû arracher, qui était dans le manuscrit de l'Escorial. Tout à fait intéressant. Vous l'avez, paragraphe 7.
C'est chapitre,
chapitre 3, paragraphe 7. Il est complètement coupé.
Il n'y a pas de chapitre.
Ah, mais il est au chapitre 4, oui, pardon. C'est le paragraphe 1. Paragraphe 1 du chapitre 4. Il y avait plus de chapitres dans l'Escorial que Valladolid. C'est réduit. Alors, vous allez voir. On va prendre. Oui, c'est ça, oui. C'est ensemble. Pour elles, elles ont tout abandonné le peu. Car vous, mon Créateur, vous n'êtes pas ingrat. Et je n'ai aucun motif de penser que vous. Alors voilà. Elles auraient voulu avoir beaucoup plus pour vous faire le don. Vous avez ça aussi à propos des sœurs. Car vous, mon Créateur, vous n'êtes pas ingrat. Vous n'avez pas ça déjà, hein? Si, vous l'avez dans le Valladolid. Et je n'ai aucun motif de penser que vous donnerez moins qu'il ne vous est demandé. Vous accorderez plutôt beaucoup plus. Vous avez ça. Vous n'avez pas non plus, Seigneur de mon âme, abhorré les femmes, détesté les femmes, lorsque vous viviez dans ce monde. D'accord? Au contraire, vous les avez toujours favorisées et traitées avec beaucoup de miséricorde. C'est toujours bien là. Alors la suite, écoutez ça un peu, on finit avec ça. Et vous avez trouvé en elles autant d'amour et plus de foi que chez les hommes. L'une d'entre elles dont nous portons l'habit fut votre très sainte mère, et ses mérites nous valent de mériter ce que nous avons démérité par nos péchés, donc la Vierge, intéressant. N'est-il pas suffisant... Alors ça commence là. Accrochez vos ceintures. N'est-il pas suffisant, Seigneur, que le monde nous tienne à l'écart, en espagnol parqué, comme dans une basse-cour, hein, acorraladas, que nous ne fassions rien qui vaille pour vous en public, et que nous n'osions parler de quelques vérités que nous pleurons en secret. Faudrait-il encore que vous n'écoutiez pas une aussi juste requête ? Je ne puis le croire, Seigneur, de votre bonté et de votre justice, car vous êtes un juste juge. Vous n'êtes pas comme les juges du monde qui, étant fils d'Adam et enfin tous des hommes, tiennent pour suspecte n'importe quelle vertu de femme. Oui, ô mon roi, il arrivera un jour où tous seront connus, je ne parle pas pour moi, car le monde connaît ma misère déjà, et je me réjouis qu'elle soit notoire, mais je le vois, les temps sont tels qu'il me semble irraisonnable de rejeter des esprits vertueux et forts, même si ce sont des esprits de femmes. Quand nous vous demanderons des honneurs, des richesses ou quoi que ce soit qui sente le monde, ô mon Seigneur, ne nous écoutez pas. Mais lorsqu'il s'agit de l'honneur de votre Fils, pourquoi n'écouteriez-vous pas, Père éternel, celle qui, pour vous, perdrait 1000 honneurs et 1000 vies, et non à cause de nos mérites, Seigneur, car nous n'en avons aucun, mais à cause du sang et des mérites de votre Fils. Et sans se faire affoler. De l'aspect... féministe peut-être, hein, un peu agressif, voilà, sur la situation des femmes, un petit peu. En fait, c'est pas du tout un manifeste féministe, c'est une prière adressée au Seigneur, qui fait valoir les mérites du Christ, et c'est en elle, et les mérites de la Vierge, et c'est en elle, hein, et les mérites des sœurs, et c'est en elle aussi. Donc c'est une prière adressée au Père éternel, hein, c'est une prière véhémente, ça c'est clair, hein, mais il s'est affolé évidemment. Donc il a rayé tout ça. Tout ça s'était rayé. Et ça n'apparaît pas dans la version de Valladolid. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Et le photographe, à la fin du 19e, a retrouvé ça et il l'a publié. Et alors, voilà ce que ça donne dans l'Escorial. Et rayure. Je vais jeter un petit coup d'œil à ça. C'était rayé pour qu'on ne puisse pas lire. Ça, c'est clair. C'est clair. Hein? Donc, voilà. On est placé au cœur de la situation de Thérèse, comme femme, comme religieuse, dans ce contexte ecclésial, social, culturel, de la femme de l'époque. Et nous allons voir par la suite aussi le fin du fin, c'est qu'en plus, elles font oraison. Elles font oraison, enfin, prière mentale. Les femmes, à l'époque, elles sont bonnes à faire de la prière vocale, qu'elles disent le pater et l'ave, elles valent dire. Ça suffit. Ça leur suffit. Elle dira, oh, combien que cela nous suffit. Donc, on est dans ce contexte-là. Voilà. Alors, vous voyez, c'est assez intéressant de voir et de voir aussi que, bon, bah, évidemment, il s'est affolé, le censeur, il n'a pas voulu que ce soit publié, c'est clair, mais en fait, c'est quand même, c'est surtout une prière, et vous voyez que c'est surtout, c'est adressé au Père, c'est surtout le Christ qui a de l'importance, et la Vierge, hein, mais évidemment, il y a... Bon, voilà. Voilà, alors nous aborderons ce qui nous reste pour la prochaine fois. Comment ça se noue ? Qu'est-ce que être tel pour que nous ne soyons pas considérés comme présomptueux ? Trois choses. Je vous demande trois choses qui sont dans les constitutions. L'amour mutuel, le détachement de tout le créé et l'humilité, la véritable humilité. Bien que je la dise en dernier, elle est la première et nous embrasse toutes. Et voilà, avec cela nous serons tels que le Seigneur nous entendra. Voilà le chemin de la perfection noué. Noué. Être tel. Trois choses. Plus tard, elle dira vertu. Au début, elle dit trois choses. Trois choses. Tres cosas. Trois choses.
Si vous voulez trois choses.
Alors, c'est paragraphe 4 du chapitre 4. Je vous l'ai mis là en référence. Trois choses. Je vous l'ai mis là. Tout y est. Bon, elle dit il faut beaucoup travailler, garder parfaitement notre règle, qui nous dit prier sans cesse. C'est la règle première du Carmel, primitive du Carmel. Donné par le patriarche Albert de Jérusalem aux ermites du Mont Carmel, très bien. Et puis voilà, trois choses nécessaires, sans lesquelles vous ne pourrez pas être des contemplatives et donc sans lesquelles le Seigneur ne vous écoutera pas. Très clair, et vous exaucera pas. Si vous n'avez pas ça, il ne vous écoutera pas. Ça va ? Ben voilà. Donc ça y est, c'est noué, on peut partir avec le paragraphe 3 demain. Je vous rendrai les quelques minutes que je vous ai volées. À demain. On commencera par ouvrir le dialogue, le débat, si vous avez des questions ou des commentaires sur toutes les informations qui vous ont été données aujourd'hui. À qui manque un texte ? Deux ? Attention, il y a des étudiants clandestins. Je vais dire ça. Quoi, oui, d'accord. Un était prévu, mais pas deux.
Qu'est-ce qui n'est pas prévu ?
Ah, mais c'est vous, Père Simon-Jude. En effet.